Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com.
Bienvenue à cette 14e émission de Star Wars en direct, édition Clone Wars. Cette semaine, nous discutons du 16e épisode de Hidden Enemy. Cet épisode a été écrit par Drew Z. Greenberg et réalisé par Stewart Lee. Au niveau de la distribution, nous retrouvons James Arnold Taylor dans le rôle d'Obi-Wan Kenobi, Matt Lanter pour Anakin Skywalker et Nika Futterman pour Asajj Ventress. Voici un court résumé de l'épisode. Alors que la République est appelée sur la planète Christophe VI pour en empêcher son invasion par les séparatistes, les Jedi et les clone troopers sont pris par surprise par les droïdes et toutes les preuves pointent vers la présence d'un clone traître à la solde des séparatistes. C'est maintenant au tour du Capitaine Rex et du Commandant Cody de découvrir qui est ce traître, tandis que Obi-Wan et Anakin partent en mission secrète où ils se feront surprendre par la présence de Asajj Ventress, l'assassin du Comte Dooku. L'équipe de Star Wars en direct a commenté cet épisode, et voilà notre discussion. Donc, l'épisode se déroule avant le film The Clone Wars, alors que le gros des troupes séparatistes n'ont pas encore atterri sur la planète Christophe VI. Les troupes de la République ont été appelées pour empêcher l'invasion de la planète, et les clones de Anakin et de Obi-Wan s'apprêtent à tendre un piège. Un bataillon de droïdes arrive et les Jedi sont prêts à attaquer. Mais Obi-Wan sent que quelque chose ne va pas. Son instinct ne le trahit pas, des dizaines de droïdes de combat attaquent la position de Obi-Wan. Anakin doit rejoindre son maître. Pour cela, ses clones tentent des filins entre deux immeubles. En s'enfuyant, un clone récupère la tête d'un droïde commandant et le ramène au centre de commande. Rex et Cody entreprennent de fouiller sa mémoire. Le droïde connaissait l'emplacement des troupes républicaines. Il se détruit avant d'en savoir plus. Les Jedi et les deux clones sentent la présence d'un traître dans leur rang. Anakin et Obi-Wan partent alors en mission derrière les lignes ennemies. À peine sont-ils partis que Rex et Cody découvrent un comlink qui est resté allumé. Sortant du centre de commande, ils voient un clone en train d'espionner et le poursuivent ce qui les mène à la cantine où se trouve leur frère.
Et donc la devise de cet épisode est « Truth enlightens the mind, but won't always bring happiness to your heart. La vérité éclaire l'esprit, mais n'est pas toujours source de bonheur. » Alors, en avant Guingamp, qu'est-ce que t'en as pensé, mon cher Danny?
Moi, j'ai pas vraiment fait le lien avec la morale et l'histoire, à moins que ça s'applique vraiment à Slick, qui lui veut la liberté, etc. Fait que c'est... Il est obligé de trahir ses frères pour être libre, mais bon, je sais pas si ça s'applique vraiment à ça, là. C'est pas clair.
Je vois que ça, moi. C'est ça, ou alors c'est Rex et Cody qui découvrent le traître. Mais je vois pas, je pense que c'est plutôt Slick qui a vu la vérité.
Ouais, ça doit être une sentence qui est liée au côté philosophique de la liberté, quoi.
Oui, non, je pense que c'est plus ça, c'est par rapport à Cody et Rex, et puis l'ambiance pesante qui est un peu à la fin. Il a dit des trucs pas bien, comment on va se sentir maintenant?
Bouh, méchant, allez va, on l'emmène.
C'est ça, voilà.
Mais n'empêche, c'est vraiment, ça nous explique un peu ce qui va arriver par la suite, en fait, comme dans les livres, dans la série appelée Commando, que les clones veulent avoir leur liberté.
Ouais, c'est ça.
Sauf que là, c'est trop tôt dans la guerre pour que ça fasse une très grande différence et qu'après, ils vont commencer à se poser des questions.
C'est ça, comme tu
dis. D'ailleurs, c'est un peu le cas de Spad, non? Ce clone, aussi appelé Mandalore le Ressusciteur, qui a quitté l'armée et fondé des protecteurs mandaloriens.
Impossible, ça doit être dans les BD, fait que je peux pas vraiment confirmer ou infirmer, mais c'est comme Henri dit, c'est vraiment le concept que Karen Travis a créé depuis le tout début de ses romans, donc que les clones veulent la liberté. J'espère qu'ils vont développer ça davantage, ça a juste été vraiment la conclusion de cet épisode-là. mais quand même, ça reste des clones, ils sont des êtres humains, ils ont une identité, un individualisme. Mais au départ, comment qu'un clone peut être un traître quand ça, ils sortent tous du même ADN, donc...
C'est... Surtout si c'est un clone de base, sachant qu'ils ont été vraiment génétiquement modifiés pour qu'ils soient, pour qu'ils suivent la ligne. Et quand on connaît tous les déploiements drastiques qui ont été faits sur Kamino pour enlever les tares, c'est bizarre que pour un simple clone, il y ait un tel problème.
Parce que au
moi,
départ,
j'aurais plus vu ça chez un arc ou un nul arc.
C'est ça, exactement. Parce qu'au départ, c'est seulement les arcs et les nul arcs qui étaient des défauts de fabrication. Donc, il y avait plus une conscience à confronter les ordres, etc. Donc, eux, peut-être, s'il y aurait été un arc trooper, ça aurait bien fonctionné. Mais ici, ça a l'air d'être un clone standard. Donc,
peut-être moins.
Exactement. Mais bon. Ils ont quand même de l'individualisme dans leur coupe de cheveux. Moi, personnellement, je suis convaincu que c'est seulement pour qu'on puisse les reconnaître durant la série télé.
Mandalore, le ressusciteur, c'est pas Spad, c'est Spar. C'est Spar qui est un arc Alpha Oméga 2.
D'accord. Voilà.
Mais sinon, oui. Dani, tu parlais du fait que les nuls et les nuls arcs et les arcs étaient avec un défaut de fabrication, mais c'est que seulement que les nuls.
Ouais, c'est les
parce que
nuls,
les arcs
ouais.
ont été créés justement plus proches de Django, c'est tout.
Ouais, c'est ça. Un entraînement
nuls,
différent.
Ce sont
ouais.
des prototypes. Hein.
Ouais.
Ouais, c'était le tout premier, c'est ça.
C'est ça.
Voilà, exactement. Qui étaient vraiment très autonomes et d'ailleurs, à la fin, ils ont été récupérés surtout pour travailler dans l'intelligence républicaine. Mm-hmm.
On le voit très bien dans les romans, ils sont des cracks informatiques et ils sont vraiment voilà. experts dans tout. Là.
C'est la crème de la crème, mais bon, les nuls n'étaient pas très appréciés dans la grande armée à cause de leur grande indépendance et justement parce qu'ils osaient dire ce qu'ils pensaient. Quoi.
Bon, une des choses qu'on n'a pas mentionnées qui est très claire, c'est que c'est un épisode qui est comme un prequel pour une prélogie pour le film Clone Wars. Donc
en fait j'en parlais dans le j'en disais deux mots dans le long résumé en fait.
Ah d'accord. Je n'étais point là mais bon c'est comme
je l'ai pas encore dit le long résumé.
OK d'accord.
J'ai juste fait mon introduction. D'accord. Et c'est dans le long résumé je disais bon. Pas grave.
Ah mais intéressant de revoir Christophe Sis.
Ouais.
Ouais.
Mais c'est ça comme
cette planète d'une manière esthétique est vraiment très très belle. Mm-hmm.
Ça me fait penser un peu à Coruscant à petite échelle. Là. Mm. C'est plein de bâtiments sur une couverture plane. Mais c'est comme ça, Louis, hier, t'étais pas certain que c'était avant le film ou pas parce que tu l'avais pas vu encore.
Non, mais là, j'en suis sûr.
Ouais.
Bah heureusement, parce que sinon, ça serait inquiétant. Hein.
Bah ouais, bah, j'aurais été voir l'encyclopédia.
Moi, la chose que j'aimerais mentionner, c'est que c'est pas la première fois que The Hidden Enemy est utilisé dans Star Wars. Probablement que Louis, tu l'as sûrement déjà su. C'est un des Republic, un des BD. C'est attends, j'essaie de retrouver dans mes notes. Voyons, c'est Star Wars Republic de Hidden Enemy qui est en 2006. Qui bah bon, c'est ça, ça a déjà été utilisé. C'est ça se déroule sur Kashyyyk lors de Revenge of the Sith, Luminara Unduli puis Quinlan Vos.
Ah ouais, oui, bah là c'est le top du top, c'est la crème de la crème des comics, c'est la fin de la guerre des clones et le moment où Unduli se fait tuer et où Quinlan Vos souffre le martyre parce qu'il s'est pris un tir de RTTT.
Ok. Non, c'est ça, donc j'étais surpris qu'il commence à recycler des titres.
Ah mais ça n'a rien à voir hein. Comparativement avec l'épisode, je vous dis tout de suite, allez acheter le comics. Hein.
D'ailleurs, le numéro de production est 2.01. Je sais pas si vous avez remarqué sur le site officiel.
Donc The Hidden Enemy, pour information, c'est le volume 10 de la série Clone Wars chez Delcourt intitulé Épilogue.
D'accord. Donc c'est ça. Pour revenir sur qu'est-ce que je disais. Cet épisode-ci, le numéro de production, ben, je veux dire, à la télé, c'est le 16e, mais le numéro de production, c'était 2.01, donc, théoriquement, c'est le premier de la saison 2, selon l'ordre qu'ils voulaient le faire peut-être au départ, dans la production.
C'est un peu ce qu'on a vu déjà, parce qu'il y avait depuis un petit moment de temps, pour ceux qui ont le Blu-ray avec les bonus de Clone Wars, il y avait même les extraits d'un épisode qui s'appelle Cargo of Doom. Mm-hmm. Et je me demande s'il n'aurait pas dû être aussi dans la saison 1, qu'ils l'ont déplacé plus tard.
Mais regarde, j'ai fait une petite recherche sur Wikipédia, puis t'as le... Pour le film Clone Wars, donc c'est 4 épisodes qui sont regroupés. Les 4 épisodes, c'était le 118 qui était The New Padawan, le 101 qui était Castle of Deception, le 103 qui était Castle of Doom, et le 104 qui était Castle of Salvation. Ça, c'est les 4 épisodes qui ont regroupé pour faire le film. Mais si tu y vas dans l'ordre de production jusqu'à maintenant, si je vais on commence à 101, puis on monte, donc 101, c'est le deuxième épisode qui est dans le film, donc Castle of Deception. 102, c'est Downfall of a Droid. 103, c'est Castle of Doom, le troisième du film. 104, Castle of Salvation, donc le quatrième du film. 105, Bombat Jedi. 106, Duel of the Droid. 107, Rising Malevolence. 108, Ambush. 109, Shadow of Malevolence. 110, Cloak of Darkness. 111, Destroy Malevolence. 112, Lair of Grievous. 113, il y en a pas encore. 114, Rookies. 115, il y en a pas encore. 116, Dooku Captured. 117, il n'y en a pas encore. 118, The New Padawan, qui était le premier du film quand Ahsoka apparaît pour la première fois. 119, il y en a pas. 120, c'est The Gungan General. 121, il n'y en a pas. 122, Jedi Crash. 123, il n'y en a pas. 124.
Respire.
124, c'est Defender of Peace. 125, Trespass. Et c'est, jusqu'à présent, c'est ceux-là qu'on a. Les épisodes.
C'est quand même bizarre. Hein.
Ouais,
c'est comme surtout le 118 pour l'apparition d'Ahsoka, ça fait un peu bizarre.
Mm-hmm. C'est comme s'ils l'avaient fait plus tard et ont décidé, ok, on va servir l'épisode...
Finalement, quitte à détruire l'UE, tout de suite détruire tout d'un coup, quoi.
Mais de toute façon, même si on suit l'ordre de production ou l'ordre qui les font paraître à la télé, ni un ni l'autre fait du sens. Donc, on revient...
Enfin, peut-être que le fait qu'ils fassent numéro de production, c'est dans l'ordre dans lequel ils les ont animés.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Donc, tel qu'ils ont continué à faire, tel qu'ils ont attendu de finir le film avant de dire tiens on va peut-être qu'ils ont changé entre temps la façon d'introduire le personnage.
Mm-hmm.
Mais bon, et on dû dire on reprendra ça plus tard le scénario, et une fois qu'ils avaient le scénario à nouveau revu, ils en étaient au 18e épisode.
Mm-hmm. Bon, mais ça tient pas la route de toute façon, fait que ça revient au même. Moi, la chose que j'ai remarqué, c'est que Obi-Wan a pas senti les droïdes arriver dans la force. Non. Donc
un petit peu s'il dit à un moment quelque chose qui va pas, donc
ouais, sauf que les droïdes étaient vraiment c'était une seconde avant, donc j'aurais pensé qu'ils auraient détecté un petit peu d'avance là, savoir qu'il y a un danger
sachant quand même qu'ils arrivent à détecter deux vers qui pensent aller empoisonner une personne. Ils n'arrivent pas à détecter tout un bataillon de droïdes qui vient sur eux. Détail.
Bah, ça dépend où est ton sens des priorités, hein.
T'es allé choper du petit verre à la place de te faire flinguer par 50 000 droïdes.
Bon, enfin, je pense que ça doit dépendre de là où ils étendent la force. C'est-à-dire que là, peut-être qu'ils se focalisaient sur la bataille à venir et qu'ils pensaient pas regarder autre part, alors que peut-être dans l'épisode 2, ils surveillaient plus la Padmé.
En effet.
D'ailleurs, dans l'espèce de petite le newsreel qu'ils appellent, les nouvelles au début, on voit les habitants de Christophe VI, de quoi qu'ils ont l'air. Ils ont comme des habits moulants, on dirait, là. Donc, c'est bien qu'on ait pu les voir.
Ils sont tous en collants, ils ont tous les mêmes collants.
Ouais, c'est ça.
Oui, je sais pas pour vous, j'ai encore remarqué qu'ils avaient encore les rouages grippés, les droïdes. J'ai l'impression qu'ils ont changé
moi,
je l'ai moins
remarqué, là.
Non, moi non plus.
Ah bon, moi je l'ai... Je l'ai un peu remarqué, je me suis dit peut-être qu'ils ont en fait inventé un son un peu plus différent qu'avant.
Mm-hmm. Moi, la question que je me pose, est-ce que c'est un bon épisode, est-ce que c'est un bon prequel pour le film? À part montrer que, en arrivant au début du film, à part montrer que la République était dans le trouble, tu sais, qu'il y avait des armes en moins. Je veux dire, est-ce que c'était utile de montrer cette arrivée-là sur Christophe VI?
Je crois qu'il m'a plus dérangé, c'est de voir encore à Sage 23, parce que je me suis dit que ça faisait quelques mois qu'il l'avait pas vu, que quand il la redécouvre dans le monastère de Teth, et là il la retrouve sur Christophe VI, je trouve que ça, ils utilisent un peu trop ce personnage là, par exemple, je trouve que c'est un peu inutile.
Ouais. Puis il aurait pu quand même mettre cet épisode-là, peut-être le premier de la saison 1, donc pour dire voici ce qui s'est passé juste avant Christophe VI, mais nous le mettre comme le 16e. Donc c'est peut-être un mauvais choix de placement là.
Ouais, bah vu comment ils l'ont changé beaucoup de fois leur classement, je sais pas ce qu'ils font vraiment avec. Mais bon, pour revenir à Sage Ventress, je dirais qu'au départ en fait, j'avais pas tout de suite perçu que c'était justement un prequel au film. Mm-hmm. Et le fait de voir Sage Ventress et Obi-Wan et Anakin qui la saluent comme s'ils l'avaient vu la semaine passée.
Ouais.
Je me suis demandé où est-ce qu'on était précisément et j'ai dû attendre la fin pour vraiment comprendre qu'on était juste avant le film. Donc bon, je sais pas si elle est vraiment bien utilisée ici ou pas.
Ben c'est justement qu'est-ce que je revenais hier.
Rien, quoi.
C'est comme hier, Louis. Tu le savais pas non plus que c'était avant Christophe VI. Donc quelqu'un qui a pas vu le film, par exemple, est-ce qu'il va comprendre la situation? Tu sais, il va voir un épisode comme ça qui se termine. Oh, la bataille va commencer. Ok. Puis si par la suite il ne voit jamais le film, il verra jamais la conclusion de cet épisode-là.
Ou tout simplement, on pourra dire, eh ben, il aurait évité de se faire mal aux yeux et de perdre du temps.
Ouais. Mais bon, c'est juste dans le sens que, je veux dire, ça reste un épisode stand-alone. Dans le fond, c'est un épisode seul si tu regardes seulement la série. Si tu inclus le film, d'accord, ça se tient. Mais sinon,
Ouais, mais ben, en fait.
Vas-y, Henri.
Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ils l'ont. Ça fait longtemps qu'on savait qu'il y avait un épisode qui se passait avant le film. Donc, évidemment, les gens qui le savent, ça les a pas trop gênés. Mais apparemment, comme Gaspard et Louis, vous en êtes la preuve, vous ne le saviez pas avant.
Ben, moi, je l'ai su genre une ou deux journées avant seulement. Là, j'avais aucune idée.
Hein? Ben, au début, je me suis dit, voilà, on va revoir Christophe VI après les événements du film. Mm-hmm. Je me suis dit. Enfin, voilà, ils sont malins, ils vont nous resservir des éléments déjà vus pour étayer un petit peu ce qu'on a eu dans le film. Eh ben non, ils ont fait un truc plat, ils ont fait un truc du déjà vu 100 fois avec Sage Ventress. Ce que j'aurais voulu, c'est voir un peu plus Watson. On l'a vu une microseconde. Non, quoi. C'est-à-dire, comme à l'accoutumée dans cette série, ils n'utilisent pas assez leurs personnages. Ils utilisent toujours le même qui est ridicule.
Il aurait fallu qu'il mentionne justement dans l'introduction, genre, avant la bataille de Christophe VI, il s'est passé ceci, cela. Dans l'introduction, ça aurait été bien qu'il mentionne comme ça.
Mm-hmm.
Puis la chose que... C'est ça. Imaginez si nous, en tant qu'adultes, on est confus. Comment que les enfants peuvent être confus, eux, pour qui la série est destinée?
Tu sais, tu mets un enfant de 5 ans devant, il cherche pas à comprendre l'histoire, il voit des rayons laser partout, il est content.
Ouais, il y a ce côté-là, c'est certain, là. Mais d'ailleurs, le site officiel mentionne que dans la saison 2, il va y avoir beaucoup plus aussi de sauts dans le temps, en avant et en arrière, dans la saison 2, donc ça risque d'être mêlant encore plus.
En effet, c'est ce que dit Lucas justement dans l'annonce récente de la seconde saison. Ils vont essayer de se focaliser sur l'histoire de Skywalker et donc un peu genre de truc.
Ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire un peu plus de politique là. C'est quand même un petit peu redondant cette série des fois.
Un petit peu.
Un chouïa.
Bah, si on regarde bien dans les séries justement pour jeunes comme ça, c'est rarement un truc super fouillé qu'on peut avoir dans Battlestar Galactica, par exemple. Mm-hmm. Souvent, des séries qu'on voit passer sur France 2 le matin, ça peut être le même genre que Clone Wars, des trucs animés. C'est des trucs sans trop de liens, c'est à peu près les mêmes choses à chaque fois. Ça m'étonne pas de la part de Clone Wars non plus. Hein. Mm-hmm. Même s'ils disent que c'est un peu plus adulte, essayent de faire ça un peu plus adulte, ça m'étonne pas que ça reste quand même centré pour un gamin, donc ils peuvent pas faire des trop... Faut que les jeunes puissent comprendre. Donc peut-être toi, Louis, tu veux peut-être plus
non,
de politique.
Non, mais tu dis c'est centré sur les gamins, oui et non, moi je suis pas d'accord. Hein. quand tu vois les épisodes, t'as des épisodes qui sont vraiment pour les gamins avec Jar Jar, et t'as des épisodes qui sont d'une violence pour un gamin, c'est inouï, quoi.
Et comme on hommage...
C'est quand même diffusé sur 4 Network, qui est comme ciblé pour les jeunes.
Mm-hmm. Oui, non, mais bien donc, sûr, moi, ce que je reproche, c'est que sur nos 6 chaînes nationales, on nous le sert que sur N6 à 9h du matin le dimanche. C'est n'importe quoi. Mm-hmm.
Ça passe bientôt sur Cartoon Network France, je crois.
Ouais, la chaîne que personne n'a.
Mais pour venir justement sur le sujet, non, d'après moi, la série, oui, c'est majoritairement pour les jeunes, mais ils savent pas où se diriger. Alors, j'ai déjà mentionné quand on parlait du film Clone Wars qu'il n'y avait pas de sous-titres quand c'était une voix alien qui parlait. Comme Jabba, même Zero, ils l'ont fait parler mais ils l'ont fait parler en basic pour pas avoir à mettre de sous-titres. Il n'y a pas de texte déroulant au début pour pas que ceux qui ne savent pas lire, les plus jeunes, aient pas besoin justement que quelqu'un leur explique. Puis ils nous font aller sur leur site officiel pour lire des BD puis des informations supplémentaires. Donc c'est où la limite là? C'est-tu dirigé pour les adultes ou pour les jeunes? S'il faut absolument aller lire des BD, aller chercher de l'information supplémentaire sur le site officiel, est où la limite entre les deux là? Ils font-tu vraiment pour les jeunes? Ils essayent de jouer des deux côtés là.
Rex et Cody traquent ensuite le signal du Comlink, ce qui les mène au baraquement de l'équipe de Sleek. Pendant ce temps, Obi-Wan et Anakin arrivent dans un bâtiment abandonné, ou presque. À Sage Ventress, l'assassin du comte Dooku est présente pour les accueillir. Un combat sans merci s'ensuit. Du côté de la République, Rex et Cody appellent tous les membres de l'escouade de Sleek pour leur poser des questions et savoir ce qu'ils ont fait depuis leur retour. Ils finissent par douter de l'allégeance de Chopper parce qu'il garde des droits de droïde. Mais son commandant, Sleek, finit par se trahir en avouant qu'il sait que les Jedi sont partis en mission. Il arrive à s'enfuir et trafique le dépôt d'armes de la République. À l'autre bout de la planète, Asajj met fin au combat et s'enfuit en fonçant à travers une fenêtre. Elle demande alors aux Jedi de la suivre, sauf que les troupes séparatistes sont arrivées en masse sur la planète. L'invasion peut commencer. Dans la base, Rex et Cody continuent de traquer Sleek qui se cache dans le centre de commande. Après avoir posé un piège, un combat à Manu s'ensuit. Il finit par être maîtrisé et doit s'expliquer devant les Jedi. Il voulait être libre et ne plus être l'esclave des Jedi. C'est un coup porté au cœur de la République. Mais le combat n'est pas terminé, il faut maintenant reconquérir Christophe VI.
Moi c'est ce que je disais tout à l'heure, le combat... Aucune surprise, parce que de toute manière, quand on voit débarquer Asajj Ventress, on sait que va rien y avoir derrière. On sait qu'il va y avoir un échange de sabres, et l'échange de sabres, plus ça va, plus on en est gavé. Et en plus, elle finit toujours par fuir en faisant sa maline, style c'est la meilleure et tout, quoi. Elle se fait latter comme une vieille merde, faut dire ce qu'il
est. Faut dire aussi que l'animation, elle a fini par être redondante, donc c'est pas comme les films où ils peuvent trouver de nouveaux trucs. Donc évidemment, les combats, ils ressemblent toujours un peu aux mêmes. Mais j'ai trouvé quand même que l'animation était mieux réussie dans ce combat-là qu'au film. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus fluide, les mouvements.
Non, moi, j'ai toujours trouvé encore que c'était saccadé.
Ah bon,
dès qu'il y a un sabre laser, je trouve que les mouvements ont l'air saccadés. Mais je pense que c'est même fait volontairement.
Mm-hmm. Oui, sûrement. Mais j'ai trouvé que c'était un peu moins, là.
Mais c'est pas mon truc. Et puis alors, c'est collant, c'est pas possible.
Moi aussi, je pensais retrouver la jupe, vu qu'elle la jette sur Obi-Wan dans le film. Je me suis dit qu'elle la récupérerait avant le film, quoi. Mm.
Non mais c'est trop ridicule, quoi.
Moi, la portion où est-ce que Obi-Wan et Anakin vont investiguer le bâtiment où se trouve Ventress, c'est complètement inutile à l'histoire. À la place, il aurait pu expliquer comment le clone est devenu un traître, comment Asajj Ventress a contacté le clone, comment le plan s'est monté pour justement être traître. C'est un gros trou dans l'histoire, ça. Comment Asajj a rencontré le clone, comment le plan a été mis en marche. J'aurais aimé ça voir ça à la place d'un duel.
Qu'encore une fois, ils ont peut-être pas voulu trop s'avancer parce que ils voulaient pas trop gâcher l'univers étendu comme ils ont un peu fait pour ils en ont dit un peu plus, un peu différemment de ce qui est dans les bandes dessinées, mais sans trop en dire pour pas gâcher trop lieu. Mm-hmm. Donc peut-être qu'ils ont pas voulu aussi trop en dire sur les clones traites, de peur de gâcher un peu les romans de Travis.
Bah, ouais, mais bon, comme je t'ai dit, je crois que si l'information d'hier de Denis est exacte, C'est-à-dire que la bataille de Christophe X se passe entre le mariage d'Anakin et le décollage des acclamators dans l'épisode 2, à la fin de l'épisode 2. Tout est vraiment foutu dans l'UE. Mais vraiment tout.
C'est ça, j'essaie de le trouver encore. Je pense que je me suis peut-être trompé quand il parle de piédestal, là. Mais d'espèce de balcon. Là. Il va falloir que je revérifie.
Ce qui est d'autant plus incroyable, si cette déclaration est vraie, c'est que normalement, ils avaient prévu quand même de condenser tout l'UE sur l'UE actuel, sur le premier mois. Donc, il devait y avoir un minimum de déchets. Et là, il y aurait vraiment tout à refaire.
Mm-hmm. Mais là, quand tu reparles de ça, je me demande tout d'un coup, Danis, si en fait, c'est pas un souvenir de Belle.
Ouais, c'est probablement ça.
Si se rappelle pas en disant, il parle, je sais pas, il pense à quelque chose, il dit, ça me rappelle.
Ouais, c'est peut-être un flashback, ouais. C'est possible.
Ça veut dire qu'il m'aura fait passer une nuit de transe, Danny. J'ai fait des cauchemars et tout.
Il y a aussi la camaraderie entre Obi-Wan et Anakin quand ils sont en soupe qui est intéressante. Bon, ils apprennent que c'est un piège, puis ils vont quand même, comment dire, faire sauter le piège. Dans le fond, ils vont volontairement dans le piège. Donc,
ouais, comme d'habitude, quoi.
Ouais.
Comme dans Revenge of the Sith et partout ailleurs. Ils sont contents d'aller dans les pièges, ils les débusquent toujours. Enfin non, mais il y a rien qui change, quoi. C'est ça qui est dramatique.
Les cicatrices dans le visage de Cody, est-ce qu'il les avait durant le film Clone Wars ou dans les autres épisodes qu'on a vus? Il me semble que les cicatrices au visage, c'est la première fois que je les vois.
Et ben voilà, c'est ce que je me pose comme question, parce que je l'ai vu aussi, mais je suis pas certain qu'il l'avait déjà, sa cicatrice.
Ok. Ben, attention. Dans le film Clone Wars, est-ce qu'on le voit sans casque? Je crois que oui. Quand il est tout regroupé, quand tous les clones sont regroupés autour d'Ahsoka.
Oui, il me semble.
Faudrait revérifier. Mais bon, j'ai aimé aussi la scène quand Cody et Rex explorent le dépôt d'armes pour essayer de trouver Slick. Le petit scanner qu'il y a sur le bras, Rex, ça ressemble beaucoup au scanner que dans Aliens, le deuxième film Aliens, quand il voit les clones approcher, c'est une espèce comme un éventail radar avec des petits points dessus, ça me faisait penser à ce film-là. Puis le combat avec les trois clones était vraiment bien là. Puis à un certain moment donné, je pensais que Slick avait cassé la jambe de Rex.
Ouais, moi aussi.
Ils sont bien amusés sur les prises.
Ouais, mais j'ai trouvé que j'avais l'impression que les coups portaient pas. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que les coups de poing n'atteignaient pas les visages.
Ah. Pas fait attention, ça.
Non. J'ai trouvé que c'était comme s'ils se touchaient pas. Ils se donnaient les coups.
Vas-y, Gaspard, donne ton impression.
J'étais en train de réfléchir sur les coups de poing, j'étais en train d'aller chercher voir s'ils arrivaient jusqu'au visage ou pas, justement.
Ben, j'ai beaucoup aimé mieux ce combat-là que celui du Capitaine Argaius contre l'autre clone dans Cloak of Deception, je pense.
Moi, j'aimais bien Argaius. Pourquoi ils l'ont tué? Pourquoi dès qu'ils ont un bon méchant, ils le tuent?
Lui, c'est un bon traître.
C'est ça qui est un... Voilà, oui, en plus, c'est un traître cohérent, on va dire. Mm-hmm. Et ce qui est incroyable, c'est que quand même, ils arrivent à en trouver beaucoup. Ils arrivent bien à recruter les séparatistes, vu comme ils sont méchants. Hein. Parce qu'à chaque fois, vu tous les généraux et les espions qui perdent... c'est écrit sur Nover, hein, chez les séparatistes.
C'est l'appât du gain. Malgré que peut-être pour Goldie, c'était pas vraiment l'appât du gain, là. Le petit droïde. Avez-vous remarqué, sur les murs encore, il y avait des affiches de Twi'lek et des servantes Naboo, je sais pas pourquoi.
Ah non, c'était où, ça?
Non, j'ai pas vu non plus.
C'est,
J'aille voir!
Non, c'est que, au départ, je l'ai vu en lisant sur le site officiel.
Ah oui, je le vois, je l'ai juste à l'image, là.
Qui est comme une servante Naboo, c'est dans lors de l'interrogatoire des...
Oui, c'est quand ils sont au rang 9-44, enfin en tout cas sur ma vidéo à moi, quand ils sont tous en rang.
Mm-hmm. Puis à mesure que tu vas le voir en gros à droite à un moment plus loin, je sais pas pourquoi, c'est une servante de Naboo qui a une pose plus sexy un peu, mais je vois pas en quoi se situe... C'est-tu une connotation aux servantes françaises en noir avec le petit habillé blanc, là, je sais pas trop.
Ah oui, on le voit très bien à 11 minutes 43 à peu près. Mm-hmm. Au-dessus de Rex.
C'est ça, donc encore une fois, on voit les clones qui aiment beaucoup afficher les demoiselles dans leur baraque. Parlant de ça, là, on en a parlé un petit peu hors d'onde au départ. Asajj Ventress et Obi-Wan, ils ont-ils eu une histoire d'amour entre eux à un moment donné ou l'autre dans l'histoire? Parce que ils se lancent des salut chérie, puis des trucs du genre, là, my sweet, puis c'est comme...
Le problème, si c'est ça, il a vraiment un mauvais goût, Obi-Wan. Hein?
Parce que Obi-Wan balance quand même deux ou trois sourires vicieux, alors...
Ouais, c'est ça, c'est pour ça...
Mais en fait, à Asajj Ventress, pour trouver son look, elle a été faire un stage chez les Wizenvong.
mais j'essaie de voir c'est quand est-ce que... Parce que Obi-Wan parle comme ça à Ventress aussi dans le film Clone Wars. Donc, est-ce que ça vient des BD? Y a-t-il un moment donné où est-ce que ça a commencé? Est-ce que les deux se parlaient un peu comme un vieux couple, un peu comme ça?
Absolument pas. Par contre, on a l'obsession d'Obi-Wan qui est assez intéressante, qui est dans l'album du même titre, qui est Star Wars Clone Wars Volume 8 de chez Delcourt, où ça se passe juste après le moment où Anakin a mis à bas Asajj Ventress sur Coruscant, et Obi-Wan est persuadé qu'elle n'est pas morte. Donc c'est une obsession, parce qu'il veut la retrouver, il veut la sauver, même du côté obscur, mais il n'y a jamais eu aucune parole de ce genre-là. Je dirais même que Asajj Ventress, dans les comics... enfin moi je l'aime bien mieux dans les comics parce qu'elle est beaucoup plus dangereuse, elle est beaucoup plus noire, elle est c'est vraiment
mais ça se passe quand même plus tard.
Latueuse, quoi.
Ça se passe quand même plus tard théoriquement dans la chronologie.
Théoriquement oui. Parce que ça c'est pendant la bataille de Boss Pity, donc c'est vers la fin de la guerre des clones.
Avez-vous remarqué la musique de Attack of the Clones dans le combat entre Slick, Cody et Rex?
Oui, la musique de la poursuite, oui.
Ouais,
la poursuite de Coruscant.
Oui, la poursuite de Coruscant, exact.
Je sais pas si c'était un bon choix.
J'ai bien aimé qu'ils reprennent ce thème de John Williams. J'espère qu'ils vont en reprendre quelques-uns de temps en temps. C'est sympa comme référence.
Moi, je l'ai pas remarqué, mais je l'ai lu tout à l'heure sur le site internet. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est de retrouver un peu la musique de Christophe VI. Du film au début justement.
C'est là qu'on voit que chaque planète a un thème, puis Christophe VI c'était justement le thème qu'on était habitué d'entendre dans le film Clone Wars, donc c'est bien qu'il ait repris ça. Mais comme pour revenir à la piste de Attack of the Clone, moi ça m'a fait décrocher, surtout que je l'ai entendu, ça m'a fait penser à la poursuite de Speeder sur Coruscant, puis j'ai comme décroché une fraction de seconde. Pour moi, une pièce musical devrait pas me faire décrocher. Peut-être qu'il était pas assez, parce qu'elle m'a fait décrocher, donc c'est peut-être pas le bon choix musical, mais je veux dire, j'ai bien aimé entendre la musique des films.
Non, de mon côté, ça m'a pas trop fait décrocher. Je sais que je m'en suis rappelé, mais j'étais concentré sur la mise en scène du combat, donc pour moi, ça se mariait bien avec. Après, oui, comme disait Louis, s'ils peuvent les réutiliser plus souvent, ça sera que bénéfique, à mon avis, hein.
Ben, il y a aussi la mention, je me souviens plus c'est lequel le nom du clone qui collectionne les doigts de droïdes.
Ah, c'est sympa ça. Qu'est-ce que c'est sympa.
C'est comme un clin d'œil aux soldats du Vietnam qui ramassaient les oreilles de leur.
Attends, je savais pas. Bon bah d'un coup c'est beaucoup moins sympa. Mais par contre, là j'ai pas compris pourquoi Slix après il fait style. Que c'est interdit. C'est interdit d'aller ramasser des doigts de droïdes. Qu'est-ce que ça peut faire?
Bon, il le dit. C'est dans les règlements que t'as pas le droit de ramasser des trucs du champ de bataille.
Bah oui, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça risque rien.
Ben non. Ben bon, en fait, peut-être que c'est juste le fait que, bon, il a menti, donc ils peuvent plus lui faire confiance. Je sais pas.
Peut-être qu'ils ont pas le droit d'avoir trop de possessions. Peut-être les clones.
Ouais.
Ouais, c'est possible. Ouais, c'est pas faux.
Donc, commentaire général?
Commentaire général, moi je te dirais que c'est un épisode que je n'ai pas aimé. Par contre, bon, c'est vrai que j'ai pas mal apprécié revoir Christophe VI, mais j'ai trouvé le scénario une simplicité effrayante. J'ai trouvé que le combat était nul. J'ai trouvé, tout était très prévisible. Comme on a dit, il y a des épisodes pour les enfants, des épisodes qui sont plus pour les adultes. Ça, pour moi, c'est un épisode pour enfants qui sera content de voir les sables laser tournoyer. Nous, ce qu'on attend maintenant dans The Clone Wars, c'est de voir autre chose. Parce que si pendant, si à chaque saison, pendant 22 épisodes, on voit que des combats de sable laser, au bout d'un moment, c'est lourd. Mm-hmm. Donc, globalement, pour moi, c'est pas un très bon épisode.
On n'a pas vu que du sabre laser, on a aussi vu du combat de livre.
Ouais.
Ouais, c'est pas faux.
Et je pense qu'ils vont, pour les gamins, ils sont toujours contents d'en avoir une bonne baston de sabre laser, donc je pense qu'on va en voir encore longtemps.
Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé que c'est un épisode moyen. À l'origine, je m'attendais à un épisode un peu comme Rookies, donc vraiment focusé sur les clones. C'était focusé sur les clones majoritairement, mais je veux dire, l'histoire du traître, puis que le traître s'échappe, puis les autres découvrent qu'il s'est mélangé dans ses mots, et puis il a dévoilé qui c'était. C'est comme classique, c'était pas nécessairement original. Donc, puis on pouvait se douter que c'était très prévisible que c'était le sergent là, qui qui allait être le...
Ouais, c'est ce que je dis, tout est très prévisible dans ce truc.
Mais j'ai bien aimé l'espèce de relation, on dirait, qui se développe entre Obi-Wan puis Asa. Je veux juste voir où est-ce que ça va aller, cette relation.
Ouais, ça va terminer au pieu, hein. c'est tout ce que t'attends, hein.
Pour moi, l'épisode... Moi, j'ai bien aimé l'épisode, parce que je trouve... On a vu un peu, justement, l'arrivée des troupes sur Christophe VI. Souvent, on voit les bastons, mais on voit jamais comment ça, ce qui se passe justement un petit peu avant. Donc, rien que pour ça, ça m'a intéressé. J'ai bien aimé aussi le combat à main nue entre clones, ce qui est assez rare de ce qu'on voit. J'ai bien aimé. Donc, évidemment, oui, comme Louis le dit, on voit encore à Sage 23, encore un combat, c'était peut-être pas utile. Mais sinon, non, moi, j'ai bien aimé.
Mais on n'a pas vraiment le choix, on a comme Asajj Ventress puis Dooku qui peuvent se battre avec des sabres.
Oui. Non, mais
peut-être.
Normalement, on a le choix parce qu'il y a une armée de Jedi noirs commandée par Dooku. Le seul problème, c'est que Lucasfilm et Lucas Animated ne veulent pas et ne veulent rien réutiliser de ce qui existe dans l'UE. Parce qu'on a Score, on a Sora Bulk, on en a tout plein qui peuvent utiliser des sabres qui sont des Jedi noirs.
C'est parce que
c'est vraiment intéressant, c'est quoi.
C'est parce que ça brise l'idée qu'il y a un Sith puis un apprenti seulement, là. C'est pour ça. Un maître, un apprenti.
Oui, bah, tandis que quand on regarde, The Clone Wars Volume 2 que Delcourt vient de sortir, là, Astel Ventress qui se fait appeler un Sith, là, ça brise pas tout.
Ouais.
Ça brise pas la loi des deux.
C'est, en effet.
Enfin, c'est un peu n'importe quoi, quand même.
Donc, cette semaine, le 13 février, seront diffusés à la fois les épisodes 17 et 18. Ils s'appellent respectivement Blue Shadow Virus and the Thousand Moons. Et nous devrions y retrouver Ahsoka, Padmé et Jar Jar Binks. Le synopsis du... Eh ben ouais, mais c'est pas à nous de le faire.
Ouais, enfin, mais écoute, on le sépare en deux, hein.
Toi, tu prends l'épisode avec Jar Jar, moi je prends l'autre, hein.
De toute façon, ouais. De toute façon, je crois qu'on le retrouve aussi dans le 18 Jar Jar, donc on sera obligé de se le taper de toute façon.
Bon, bah, Denis, tu fais les deux.
ouais.
Bah, de toute façon, il fera les deux commentaires.
Je les fais tous.
Vrai, parce que nous, notre semaine de boulot, c'est la semaine où il n'y a rien, donc en fait, en gros, tu vas bien bosser, Denis, hein.
Non, bah, moi, je bosse toujours, hein.
Donc, le synopsis du 17e, Padmé et Jar Jar sont faits prisonniers tandis qu'ils cherchaient un laboratoire secret des séparatistes où ces derniers créent des armes biologiques, forçant ainsi Anakin, Obi-Wan et Ahsoka de sauver leurs amis et empêcher la propagation d'un virus mortel. Et le synopsis du 18e épisode, le fatal virus du Blue Shadow a été relâché, infectant Ahsoka, Padmé et de nombreux clone troopers. Il ne reste que 48 heures à Anakin et Obi-Wan pour trouver un antidote sur une mystérieuse planète d'où aucun visiteur n'en est sorti vivant.
Donc, si vous avez des commentaires ou suggestions au sujet de l'émission, laissez-nous un message sur notre boîte vocale Skype à l'usager SW en direct ou écrivez-nous à l'adresse studio@swendirect.com. Vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook de la version française de Star Wars en direct et suivre nos faits et gestes sur Twitter. Ne manquez pas le prochain épisode de Star Wars en direct édition Clone Noir. La semaine prochaine sera consacrée à de Blue Shadow Virus et de Thousand Moons. Donc, salutations au nom de Gaspard, Henri et Louis et moi-même. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.